Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Pierre. Si je devais synthétiser son histoire, je dirais que Pierre est homosexuel, qu'il a demandé un jour à son ex-amoureuse, avec qui il était quand il était plus jeune, avant de lui-même réaliser qu'il était gay, de faire tout simplement un enfant avec lui. Le bébé a aujourd'hui 6 mois, Pierre est un daron comblé, vous l'entendrez, et ils se sont tous les deux, avec la maman, organisé une vie bien particulière pour être de bons parents de cet enfant. Pierre vous raconte cette histoire qui est fascinante à mes yeux, un vrai symbole d'à quel point la famille est en train de changer au 21e siècle, n'en déplaise aux adeptes de la manif pour tous. Tant pis pour vous, faut vous mettre à la page les gars. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord, en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur l'appli de podcast qui s'appelle Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Ensuite, abonnez-vous à ce podcast, ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de Succès. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Enfin, si vous avez aimé cet épisode en particulier ou le podcast en général, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître Histoire de Daron. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Pierre.
C'est la première fois qu'un daron me propose de... T'es souple comme ça, toi, c'est ça?
De quoi?
Moi, je commence l'interview comme ça, hein, je suis un ouf. Hein. Prends donc ton micro, ceci est ton micro. Tu te mets en tailleur, donc, c'est ça?
Je me mets en tailleur, en fait, pour être bien, parce que tu m'as dit qu'on allait papoter pendant une heure. Alors, on me dit, je passerai les fesses pendant une heure, être mal assis. Et
ah oui, oui, ça, il faut que tu sois bien.
En plus, tu m'as mis très bien, tu m'as offert un petit café et tout, c'est toi qui m'as
bah,
mis bien.
On essaye, tu vois, de faire en sorte que ça se passe bien pour toi.
Bravo et merci, Fabrice.
C'est, je pense, le premier invité qui enlève ses chaussures et qui dit, si ça te dérange pas, je vais me mettre
ouais,
en tailleur.
Je pense que je suis le seul à être suffisamment sûr de son hygiène. Pour savoir que si j'enlève mes grolles, en fait, ça va pas retourner l'atmosphère de la pièce.
Donc on est avec Pierre. Salut Pierre.
Salut Fabrice.
Ça va?
Écoute, oui, je vais super bien. Je suis assez ému d'être là.
C'est vrai?
Ouais.
Mais pourquoi?
Parce que je suis un émotif, donc je suis souvent ému.
Ok.
Mais non, ça me touche de venir raconter la merveilleuse histoire que je vis avec mon fils depuis 6 mois.
D'accord.
Et sa maman.
J'ai Pierre, alors pour resituer un peu le contexte, ouais. Moi je connais, on a une amie en commun si tu veux, que moi je connais depuis un petit moment par l'intermédiaire des One Match Show, elle vient chanter très régulièrement dans les spectacles qu'on fait, et puis parler un petit peu de votre troupe, parce qu'en fait vous faites partie d'une troupe tous ensemble qui s'appelle New, si je me trompe pas.
Exactement, New, la comédie musicale improvisée.
Et voilà, et en fait en trois mots t'as tout dit, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une comédie musicale que vous improvisez sur scène, d'ailleurs je pense que vous étiez déjà venu faire un morceau du spectacle dans un One Match Show. Je sais pas si tu y étais toi, mais il y avait une partie de l'équipe qui était venue à l'époque.
Exactement, on peut se descendre pour Alex Lutz.
Tu me souviens.
C'était dans celui-ci, je crois. Oui, oui.
Possible.
Absolument.
Et donc, Perrine m'a envoyé un message en me disant « Salut Fab, est-ce que ça te dirait de recevoir un ami à moi qui s'appelle Pierre et qui a une histoire très particulière de daron ?» Pierre, quelle est ton histoire très particulière de daron? En quelques mots, vraiment résumé.
Ouais, moi j'ai toujours voulu être papa depuis que j'ai 20 ans, mais j'avais un gros embûche dans mon affaire, c'est que je suis homosexuel. Et c'est pas un problème pour moi d'être homosexuel, en revanche ça rend très compliqué le fait d'avoir un enfant, ou en tout cas plus compliqué. Et dans les différentes options qui se présentaient à moi, celle que je préférais c'était de trouver une femme... avec laquelle faire cet enfant et inventer avec elle une façon de vivre ensemble, de créer une famille. Le problème, c'est que je voulais la meilleure femme au monde, parce que pour avoir un enfant, on veut la meilleure femme du monde. Et c'était pas gagné. Puis en fait, la vie me l'avait envoyé très tôt. Il fallait juste que je me rende compte que c'était elle.
Waouh. Voilà. Alors là, tu viens de me teaser de ouf. J'en profite pour placer un petit mot à Adrien et Fabien, qui sont un, je sais pas si tu as écouté cet épisode, un couple de mecs homosexuels, donc, et qui ont eu un enfant grâce à la GPA. Voilà. Donc, tu disais qu'il y avait plusieurs possibilités. Ça en fait partie et c'est, ils racontent dans leur épisode, une autre histoire, quoi.
Une sacrée aventure. Ouais. Pas mal de copains. Enfin, je connais deux couples qui ont fait ça et waouh.
Qu'on peut le dire comme ça. On peut dire que c'est une sacrée aventure. En tout cas, merci beaucoup de venir raconter tout ça.
C'est moi qui te remercie. Je trouve ça vraiment chouette.
Tu pourrais me dire, tu m'as dit très vite que tu avais toujours voulu avoir des enfants, etc. Un peu plus en détail, en fait, d'où te vient cette envie d'enfant, tu penses, toi, de ton côté?
Plusieurs raisons à cela. Je pense d'abord, je suis d'une famille de trois enfants. Donc, a fortiori, on a eu beaucoup d'interactions avec mes frères et je suis quelqu'un de très sociable et donc du coup j'ai eu toujours des enfants autour de moi, des enfants de mon âge à l'époque. Et ensuite j'ai été en colo et j'ai fait tout un parcours de animateur puis directeur de centre. Donc,
Bafa ma gueule.
Bafa ta gueule, puis sûr. BAFD.
Waouh. Wow.
Ouais, j'ai dirigé des centres pendant longtemps et voilà. J'ai arrêté pour une très bonne raison qui est que ce boulot est complètement sous-payé. Mmh. Et donc, à un moment, on me proposait 30 balles par jour pour m'occuper de 100 gamins. J'ai dit, lol. Hein.
Et... sous-payé, mais franchement, enfin, en tout cas, moi, pour l'avoir fait, ouais. Animateur, c'est la meilleure expérience du monde. Quoi. C'est un truc de fou. Quoi.
Ça fabrique une personne. Hein. Vraiment. Voilà. Je pense que ça a joué. Je me suis occupé d'abord des tout petits, des 5 ans. Ah, puis oui. Après, en tant que directeur, je prenais toujours les ados, parce qu'avec les ados, et on s'amuse. Tellement mieux. Il y a des trucs à faire. Pour les humainement, c'est génial, les ados. Là, c'est marrant d'ailleurs, parce que la plupart des parents disent, oh là là, quand mon fils ou ma fille, elle va être ado, elle va être casse-pied, ça va être infernal. Et moi, je suis assez impatient que mon fils y soit ado, parce que je me sens prêt à l'accompagner, à l'accueillir dans cette période particulière.
Moi, ma fille a 13 ans, ça rentre dedans, là. C'est un autre délire. Hein, vraiment.
C'est vrai.
Alors que je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup mieux que, je trouve, la toute petite enfance, si tu veux. En tout cas, moi, j'ai préféré. Mais c'est d'autres trucs.
En voilà, en colo. Voilà.
Ah bah, c'est bon, ça n'empêche, mais bref.
Oui, il y a quand même, tu ne peux pas le faire toute l'année, on est d'accord. Donc je pense que ça a joué beaucoup et il y a une scène qui mérite d'être racontée. Mon premier psy, celui avec lequel j'ai assumé ce que j'étais et qui a débouché après une courte thérapie sur mon coming out, m'a dit à la première séance...
T'avais quel âge ?
J'avais 25.
Ok.
Pierre, vous êtes homosexuel, il va donc falloir faire le deuil de la parentalité. Elle m'a dit cette phrase. J'ai envie de rajouter cette conne. Et donc du coup, je l'ai pris dans les dents. Et j'ai pas réussi à lui dire non. En fait, je vois pas trop le rapport. Et donc voilà, ça, un peu comme un défi en fait. J'aimerais bien la retrouver cette nana pour lui faire « Eh ben non !»
Ceci dit, à sa décharge, donc tu me disais que t'avais 40 et quelques là, c'est
42.
Ça 42. Mmh. Il y a 17 piges. Je pense qu'il y avait moins de discours autour des nouveaux modèles familiaux. Ah ouais, quoi,
ça
tu
a
vois.
Hyper évolué. C'est très pertinent ce que tu dis. Bravo Fabrice.
Moi, j'essaye de, je me fais l'avocat du diable. Hein. C'est un peu mon rôle en tant qu'intervieweur.
Tu as senti que j'étais un peu chargé contre cette personne.
En fait, mais je comprends. Je me mets dans... en tant que thérapeute, en tant que psy, tu vois, je me dis, c'est intéressant qu'elle te dise que c'est un cap à passer pour pouvoir accepter ça aussi, quoi, tu vois. J'en sais rien. Après, je ne suis pas dans sa tête, quoi, tu vois. Mais
certes. Et puis, de toute façon, heureusement, donc,
hop,
c'est derrière moi parce que
le 21e siècle est arrivé entre temps.
C'est ça, c'est ça. Et maintenant, je suis papa.
Très bien. Donc, je vois très bien l'idée. Comment ça se passe une fois donc que tu fais ton coming out et que tu fais... Alors déjà, est-ce que quand tu prends cette phrase en pleine tête là, comment tu la digères, comment tu l'absorbes, comment ça se passe dans ta tête à toi? Parce que j'imagine que en ayant eu envie d'avoir des enfants toute ta vie, c'est pas forcément évident à prendre dans la pipe.
Certes, j'ai une tante qui a joué le mentor. Et cette tante, je lui raconte cette histoire et je lui dis à la fin, mais moi je suis sûr que j'aurai des enfants. Je sais pas comment, mais je suis sûr que j'aurai des enfants. Et elle me répond, oui oui, moi aussi je suis sûr que tu auras des enfants. Tu nous as raconté à 6 ans au bord de la mer que tu te voyais arriver sur un nuage qui portait avec 4 hélicoptères une grande scène. J'étais très marqué par les concerts de Jean-Michel Jarre. Et que tu ferais chanter et dirigerais l'orchestre. Et aujourd'hui, tu es chef de chœur, chef d'orchestre. Donc, tu seras papa, il n'y a aucun doute.
Voilà.
Voilà.
Tout simplement.
Merci ma tante.
Bah, et ça t'a débloqué.
En tout cas, ça m'a permis de me reprojeter.
Comment ça se passe alors ? Explique-moi un petit peu le parcours entre ce moment-là où tu te dis « Ok, en fait, en vrai, peut-être que c'est pas si impossible que ça d'avoir des enfants et d'être parent quand je suis homosexuel » jusqu'à tu me parlais tout à l'heure de cette femme qui était sous tes yeux, c'est ça ?
C'est quoi ? L'histoire, elle est trop belle. Moi, je vais faire chialer tout le monde avec mon histoire.
Vas-y, on voit. Moi,
je n'ai pas toujours été homosexuel. Si, j'ai toujours été homosexuel, mais j'ai mis un peu le temps de comprendre. Et du coup, entre le début de l'adolescence et le coming out, je vois des femmes. Parce que comme beaucoup d'homosexuels, si j'avais eu le choix, j'aurais pris hétérosexuel. Hein. Personne n'a envie d'être homosexuel. Hein. Soyons bien d'accord avec ça. Hein. Et donc du coup, j'ai essayé. J'ai fait ce que je pouvais. Et dans la liste des 11 femmes avec qui j'ai eu des aventures, il y avait cette fille... dont j'ai été vraiment très amoureux à 20 ans. Une vraie histoire d'amour avec lettres, avec on essaie de se modifier pour elle. Elle adorait la lecture. Moi, je lisais pas du tout, donc je me suis mis à lire tout ce que je pouvais pour lui plaire. Très, très amoureux d'elle, impressionné par cette femme qui est belle, qui est brillante, d'une famille un peu plus, comment dirais-je, upper class que la mienne. En fait, donc j'étais du 91 et elle était de Saint-Cloud. Donc voilà, je montais une marche, on va dire, dans la société sociale. Non, mais j'en parle parce que elle m'impressionnait de ce fait.
Ça se sent.
Elle parlait mieux que moi, elle était au lycée à Paris, moi je n'étais qu'un petit banlieusard. Et donc on a une relation d'un an.
Comment tu la rencontres cette fille ?
Je la rencontre
là, tu m'as donné envie, hein, tu vois.
J'étais à la fac à Dauphine et à une soirée, je la rencontre et comme elle me plaît, je lui dis « Oh, nice to meet you » et elle me répond « Désolé, je ne parle pas allemand ». Et du coup je me dis « Elle est drôle, elle va me plaire. » Et je l'invite à manger des tacos chez moi, genre 2 semaines après, et j'ai emballé assez rapidement.
2 semaines quand même ?
Non. 2 semaines pour lesquelles je la vois pas.
Okay.
Elle vient à la maison, premier repas, je te ramène au métro et je t'emballe avant que tu rentres chez toi.
Bien joué !
Ouais.
Quel talent !
Je rigole. Non, donc super histoire. Et puis après, cette fille, c'est pas du tout ma meilleure copine avec laquelle on a projeté ce truc toute notre vie. Pas du tout. On se voyait, on va dire, 2-3 fois par an. Et super relation, on s'entendait bien, on avait plein de choses en commun. Et voilà, mais encore une fois, pas une connexion de ouf. C'est pas ma meilleure copine. Voilà, il y a beaucoup d'homos qui ont leur meilleure copine avec lequel ils fomentent cette histoire-là, ce projet.
Tu veux dire, une fois que votre histoire d'amour s'est terminée, c'est ça ? Vous continuez à vous voir de temps à autre ?
On se fréquente, mais pas de très près.
Ça a duré combien de temps, votre fameuse histoire ?
Un an.
Un an, ok.
Ouais. Après, j'essaie de la récupérer plein de fois, etc. J'étais vraiment marqué par cette fille, quoi. Et voilà, après, je fais mon coming out. Je tombe amoureux d'un premier garçon avec qui je passe 7 ans. On se marie, on se paxe, voilà. Puis d'un deuxième, avec lequel on parle un peu. Et on fait les premières étapes de la GPA. Donc, on se renseigne auprès des sociétés, machin. Et ça me fait peur parce que je pense que c'était vraiment pas mon chemin. Voilà. Et puis,
sans vouloir être indiscret, mais qu'est-ce qui te fait peur à ce moment-là par rapport à tout ça ?
Deux choses. D'abord, je pense que j'ai pas vraiment le bon partenaire.
Ok.
D'une et de deux, le premier contact avec le monde de la GPA, ça se passe rue de Rivoli dans un hôtel très 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 haut de gamme, un 9 étoiles, et ça pu être trop le business en fait.
Okay.
Ça n'allait pas.
Okay, okay.
On a fait la première réunion, je me reconnaissais pas dans les gens. Je pensais que la vraie question c'était il y a combien sur votre compte bancaire, monsieur ?
Okay. Dites-nous.
Peut-être je suis mal tombé. J'ai des copains qui ont été au Canada, ça a été très différent. Mais moi vraiment, ça sentait on est là pour gagner de l'argent. Et ça m'allait pas. Voilà, on se sépare avec ce mec, je quitte ce mec. Et après l'histoire, c'est génial. Je travaillais, moi donc je suis chanteur, chef de chœur, et je travaillais pour Monsieur Pierre Cardin dans son festival de Lacoste en Luberon. Et donc, petit texto.
Prénom de la future maman qui souhaite rester anonyme.
Qui a une maison de vacances non loin, et je lui dis, je serai pour le festival de Lacoste à tel endroit. Elle me dit, oh cool, viens passer 3 jours à la maison. Et donc, je pars plus tôt et je passe 3 jours dans leur baraque super, dans le Luberon, génial, piscine, machin, cocktail, saucisson et bon vin. Et c'est là qu'en fait, ça connecte dans ma tête, où je me dis, mais attendez là, on a une fille que je connais, dont je connais tout le background amical, qui est vraiment en fait totalement parfaite. Vraiment, en fait, si j'avais rêvé une mère, en fait, ce serait elle. Et chance pour moi, elle est célibataire au moment où ça se passe. Elle a 40 balais, donc elle va les avoir dans très peu de temps, à 39 ans. Donc, si envie d'enfant elle a, c'est le moment d'y penser très sérieusement. Je me lance et au bord de la piscine, je lui fais mais vraiment une demande, comme si je la demandais en mariage. Je lui dis, est-ce que tu veux bien réfléchir à l'idée d'avoir un enfant avec moi? Et là, la maman fait la même tête que toi, avec les yeux qui papillonnent.
J'ai fait cette tête.
Et en fait, sa réaction est parfaite. C'est qu'à aucun moment, elle me dit « Oh, mais attends, c'est génial !» Elle est vraiment entre les deux. Elle me dit « Ça me touche beaucoup parce que j'imagine bien que tu ne demandes pas ça à tout le monde. » Et à la fois, ça me renvoie quand même à « Pauvre quarantenaire célibataire. Je suis ta dernière chance. »
Ok.
Elle prend un peu les deux en même temps.
Ouais, ouais. J'imagine que c'était pas ça dans ta tête, si je puis me permettre.
À aucun moment.
Mais bien sûr.
À aucun moment. J'ai fait cette demande à personne d'autre. Hein. Mm. C'est parce qu'elle était la candidate vraiment idéale, enfin la non-candidate en l'occurrence. Mm. Si j'avais dû imaginer dans mon entourage une maman, c'était elle.
En fait, excuse-moi, mais juste pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe dans ta tête, mais entre le moment où tu te fais cette réflexion-là et le moment où tu vas la voir au bord de la piscine, il se passe combien de temps?
J'avais que 3 jours, donc okay. J'ai attendu le dernier jour.
Ok.
Et si je suis franc, non, ça s'est fait tout seul. J'allais dire, je me suis mis bien avec la maman, mais ça s'est fait tout seul parce que tout le monde est adorable dans cette famille.
Oui, oui, oui.
C'était très facile de s'entendre avec tout le monde. Et puis en plus, c'est une famille où il y a elle a perdu son papa, la mère de mon fils, et du coup, comme elle a une sœur, elle s'appelle comme ça d'ailleurs elle-même, elle s'appelle ça un gynécée. Il n'y a pas d'homme dans cette famille, et il y avait clairement une place d'homme à prendre, pas forcément au sens vraiment genré du thème, mais pour un truc un peu d'équilibre, c'était facile en fait de s'intégrer dans cette famille. Voilà, c'est rigolo le temps qu'elle a pris pour y réfléchir. Elle a pris 9 mois pour me dire « C'est super ton projet qu'on fasse un bébé tous les deux, t'en es où ?»
Elle est vraiment revenue vers toi comme
ouais,
ça.
Ouais. Okay. Parce qu'elle m'a dit « Parce que pour moi, c'est d'accord. » On chiale, on est tous les deux de grands pleureurs. On est au restaurant, on pleure et on commence à développer le sujet, à se dire « Mais comment toi, tu vois le truc ?» Et moi, je dis, je veux pas te faire peur, mais je rêve d'une famille, en fait. Je n'ai pas forcément mon modèle à moi, là, si jamais je fais ce que je veux, j'imagine pas 2 maisons et un bébé qui va dans l'une, dans l'autre. C'est pas du tout ce que j'ai en tête. J'imagine une seule maison. Je sais pas trop comment te l'expliquer, etc. Et en fait, elle souffle, elle me dit, ah, ouf, moi aussi, c'est ça que je veux. J'ai pas envie d'avoir un enfant de garde alternée qui arrive dans une garde alternée en fait. Et on sait donc qu'on a élaboré ce plan improbable dans lequel on croyait même pas nous vraiment, je pense au tout début. On s'est dit, on était tous les deux propriétaires de 2 petits apparts à Paris, on va les vendre, on va trouver un grand et on va le couper en 2 et on aura chacun sa partie, chacun sa cuisine, sa salle de bain, sa chambre, son salon. Et dans toi ou dans ton ou dans mon appartement, il y aura une chambre pour un bébé. Et ça va très vite parce qu'on décide de ça en avril. On met en vente nos appartements avant la fin de l'année et on signe l'appartement dans lequel on habite aujourd'hui dans le 18e. Pareil, quelques mois après. Et donc on trouve cet appartement introuvable qui était la réunification de 2 lots. Donc imaginez un grand immeuble où il y a un bâtiment cour, un bâtiment rue, et donc on est au même étage. Et donc pour aller chez la maman, tu rentres par l'immeuble rue, et pour aller chez moi par la cour. Et donc on est les seuls à savoir que les 2 apparts qui sont 2 lots séparés, il y a 2 prêts, on est vraiment séparés. En fait, ils communiquent par une porte secrète.
Donc j'allais dire, vous avez quand même un endroit où vous pouvez passer d'un appart à l'autre.
Oui, on part. Donc, wow. Du coup, et notre bébé aujourd'hui, lui, il vit dans 120 mètres carrés. Quoi. Et puis quand il y a des moments, je te raconterai après comment on vit aujourd'hui, mais quel est le modèle.
L'être humain est quand même fascinant de créativité, hein, j'ai envie de te dire. Quand je t'entends tous.
Tu Tu sais que Romane Bourringer, elle a fait un film qui s'appelle L'amour flou.
Ouais.
Et donc, c'est un peu ça qu'on vit, sauf que.
Sur le même palier, c'est ça, dans L'amour flou, si je me trompe.
Alors, dans L'amour flou, ce qui n'allait pas pour nous, c'est que la chambre des enfants est un sas entre les deux. Donc, c'est la chambre des enfants qui sépare les adultes. Nous, c'est pas le cas. Il y a un couloir, et la première pièce, quand je rentre dans ce couloir, c'est la chambre de mon fils.
Ok. Waouh!
Ouais, bon. Sacrée histoire.
Donc une fois que vous avez... Alors, en termes de temporalité, comment ça se passe? Vous décidez de...
Alors pendant qu'on met en vente les apparts et tout, on s'est dit, si on n'est pas foutu de mettre à bien un projet immobilier, on est mal barré en tant que parent. Donc on s'était dit, oui, c'est un gros projet de vendre des apparts, c'est des gros sous à Paris en plus. Il y a eu des travaux parce qu'on a acheté un appartement qui n'avait évidemment qu'une cuisine, il fallait tout faire en double. Mais on s'est dit, si on n'arrive pas à faire ça... On pourra pas avoir d'enfants. Et je trouvais que c'était assez vrai. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, on essaye de procréer.
Alors, quand tu dis on essaye, la question que tout le monde se pose, c'est vous avez procréé cet enfant
naturellement.
À l'ancienne, j'ai envie de dire. Pas à l'ancienne.
Naturellement, mais sans faire l'amour. Je peux dire des mots un peu crus ou pas?
Vas-y.
Donc, concrètement, on testait les périodes où la maman ovulait. On peut faire ça très facilement. On fait pipi sur un petit machin. C'est comme un test de grossesse. Et donc, on sait exactement le moment où l'ovule est éjecté dans la trompe. Et c'est le moment où il est fécondable, l'ovule. Et donc, c'est le moment où on injectait du sperme. J'ai envie de dire prélevé quelques minutes par mes soins avant. Okay. Voilà, avec une bête seringue, ça s'appelle la fécondation artisanale, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et puis après, les petits spermatozoïdes, ils font leur life, ils savent trouver l'ovule, et puis voilà. Ça a marché très vite, puisque la deuxième fois, ça a fonctionné, mais hélas, on a fait une fausse couche.
Okay.
Et donc ça, je ne sais pas si dans les podcasts, il y a eu des gens qui en ont parlé, mais c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, parce que c'est très difficile. Donc, en fait, une fausse couche, c'est on t'annonce que t'es enceinte, en fait. Et donc, ta machine émotionnelle, elle part... Tu te projettes, ça y est, c'est parti, quoi. Et une semaine après, en fait, heureusement, ça n'a pas trop duré. Donc, on n'a pas eu le temps de trop se projeter, mais ah bah non, en fait. Et là, tu prends cher. Nous, enfin, ça a été très, très douloureux.
Tu peux en parler, hein, si tu veux. On peut prendre quelques minutes.
Moi, mon seul conseil à tous les gens qui vont. Parce que moi, j'ai écouté Histoire de Daron sur le conseil de copains lorsqu'on a démarré le projet. Parce que je trouvais ça cool d'avoir le témoignage d'autres papas. Ça m'aurait fait du bien de qu'on me dise davantage, attention, quand on t'annonce que tu vas avoir un bébé, il y a les probabilités sont énormes de fausses couches. Il faut garder ça dans un coin de sa tête pour essayer de freiner un peu la machine émotionnelle. Je pense que ça aurait été plus facile. D'ailleurs, quand elle est tombée enceinte la deuxième fois, j'ai pas du tout géré de la même façon. J'ai attendu l'écho des 3 mois à m'en faire des nœuds, et à 3 mois, ça a lâché et je me suis dit, ok, mon enfant. Voilà. Je suis un garçon émotif, donc du coup, je vais toujours avoir, quand je vais évoquer ça, ça va être un peu. Dans ce cas-là, je me tais. Si je me tais, vous inquiétez pas.
T'as le droit de pleurer, tu sais.
Ah non, je suis très à l'aise avec les larmes, mais c'est juste que les larmes, c'est pas intéressant quand il n'y a que de l'audio. Tu vois ce que je veux dire?
Je pense qu'on entend.
Donc, voilà, à 3 mois, vraiment, je me suis dit, ok, bébé va vivre, et il y a eu plus de stress de ce côté-là.
Je me permets de faire une petite aparté. En fait, j'ai enregistré avec mon frère un épisode qui a vécu 2 fausses couches, justement, et on en parle un peu plus longuement. Donc, si jamais vous écoutez cet épisode, que vous découvrez et que le sujet vous intéresse, vous pouvez aller retrouver l'épisode de mon frère qui s'appelle Fred, et on parle notamment de ces 2 fameuses fausses couches dont il parle plus longuement que toi, j'imagine, parce que t'as plein d'autres choses à raconter.
Mais surtout, on a envie de célébrer la vie.
Yes, exactement.
Et on dit souvent que le bébé, il choisit le moment où il arrive. Et nous, ça marche assez bien parce qu'on a essayé plein de solutions. Ça a mis 10 mois. Okay. 10 essais, en fait. Enfin, plus que 10 mois. Mais 10 essais à fonctionner. Et comme la fausse couche amène une bonne nouvelle, ce qui est les gamètes se parlent. Ça peut fonctionner. Donc ça, c'est... On était rassurés là-dessus, parce que quand on a 40 ans, on se pose la question de est-ce que nos gamètes, elles sont encore OK, quoi.
Parce que j'allais dire, de base, vous faites tous les deux un sacré pari, c'est que vous décidez de mettre en place ce projet. Même toi, en fait, quand tu décides d'aller voir cette fille, t'as pas auparavant testé ta propre fertilité, tu le sais pas, quoi, tu vois.
Ouais, alors en fait.
J'allais dire, waouh, ah si, ouais. Tu l'avais testé.
Moi, je l'avais testé pour la GPA. Pour moi, c'était le point de départ. Okay. Avant de me lancer, je me disais, ok, est-ce que je suis fertile?
Oui.
Donc, je savais que je l'étais 6 ans auparavant, après, ça peut évoluer. Et en l'occurrence, j'ai refait, moi, un spermogramme. Avant, et elle en revanche on s'était dit que on attendait, et clairement elle avait dit qu'elle avait pas envie qu'on s'acharne, c'est-à-dire que si ça marchait pas, ça marchait pas.
Oui.
Et justement au bout de 10 mois déjà on commençait à être dans la période de pourquoi la nature veut pas, en fait qu'est-ce qui, ça va vite la psychose hein, sur la fertilité hein, sur les appels les bébés de quarantenaire.
Ouais.
On a forcément cette inquiétude là, oh là là, on a trop attendu en fait. Et bon, en l'occurrence
vous avez pas trop attendu, c'était le bon moment,
c'était le bon moment. Après. Et ce qui est chouette, c'est que ce bébé, il a attendu vraiment qu'on soit dans le vrai jus de nos vies. On est tous les deux des adultes occupés, on a des carrières chouettes qui nous stimulent, qui nous prennent beaucoup beaucoup de temps. Et donc du coup avec ce qui ça va de stress et tout, tu le sais, t'es aussi chef d'entreprise, donc tu sais ce que c'est. Et j'ai trouvé ça cool parce que notre bébé, il a vraiment, il est venu à un moment où on était buzzy au mois de novembre. Je déteste le mois de novembre. On était installé dans cet appart, on avait commencé depuis peu, depuis peut-être 2 mois, à avoir vraiment notre mode de vie tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire des temps chacun chez soi, des temps et des temps communs. Et je trouve ça cool qu'il ait choisi ce mois de novembre pour dire ok, je vois que mes, ils sont prêts, ils sont prêts. Et évidemment on est passé par plein d'étapes avec tous les deux un vrai désir de s'entendre, donc c'était peut-être un petit peu biaisé dans le bon sens du terme, en fait. C'est comme quand on commence un boulot, on a envie de s'entendre avec les gens, en fait.
Et puis tu allais dire même dans n'importe quel couple.
Oui, t'as raison. Oui, au début, tu veux que ça marche. Bébé, il t'impose la vérité émotionnelle, je trouve.
Ah oui.
Donc du coup, on s'est disputé, mais après l'arrivée de bébé.
Ok.
Parce que ça pouvait plus marcher. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Comment ça va? Mais bien, et toi? C'est toi qui compte. Comment tu vas, toi? Voilà, ça pouvait plus marcher parce que bébé, il nous emmène dans nos retranchements, dans nos limites. Oui. Comment ça va? Ça va pas du tout.
On fait ça. Ne serait-ce que sur l'aspect de la fatigue. C'est-à-dire que le stress est un poil plus compliqué à gérer. Quoi.
Certes, mais un des gros avantages de ne pas dormir avec la maman, Fabrice, c'est que moi, j'ai très bien dormi pendant tout le début de la vie de ce bébé. Voilà.
Et vous aviez pas inventer un moment justement où vous viviez ensemble, de vous dire on va dormir ensemble aussi pendant quelques mois.
On avait ouvert toutes les portes.
Ok.
Ouais, vraiment.
C'était pas fermé, quoi.
Non.
Okay.
Et c'est pas comme ça que on a eu envie de le vivre. Il y a plein de trucs qui bougent, hein, parce que c'est très intime d'avoir un enfant, et nous on n'a pas d'intimité. Donc pendant toute la période de grossesse, on savait qu'il fallait qu'on travaille un peu notre intimité. Et
comment vous avez fait
pour que je puisse l'accompagner?
Oui, voilà.
Bah, peut-être ça va sembler un peu, je sais pas.
Personne n'est là pour te juger.
Ouais. le jour où elle a perdu les os et qu'elle est venue me trouver à 7h du matin en me disant là, je pense que ça va être aujourd'hui, elle m'a dit, vu ce qui nous attend, j'aimerais bien que je vais prendre un bain et que tu restes avec moi. Et donc, du coup, on a levé le voile de la nudité. Et c'était important.
Mais vous aviez déjà...
Enfin, ouais, long time ago.
Le corps a changé.
Quand on avait 20 ans, ouais. Je me suis tellement redéfini. L'homme qu'elle a connu à 20 ans, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, quoi, tu vois.
Ok.
Et oui, non, t'as raison, c'est pertinent ce que tu dis, mais en fait, c'est trop loin.
Ok.
Voilà, et puis, il n'y avait pas de grand sujet. Je ne suis pas... gêné par la nudité des femmes, c'est vraiment un truc ok. Pas de problème pour moi.
Alors j'avais une question un peu, mais peut-être on en reparlera un petit peu après quand justement bébé sera arrivé. Mais comment ça se passe entre vous pendant cette période de grossesse, alors qu'en fait vous avez un projet commun qui est effectivement le fait d'avoir un bébé ensemble, mais que vous n'avez pas ce truc un peu particulier qui est un amour l'un pour l'autre, qui fait que moi, par exemple, les moments difficiles avec ma femme pendant la grossesse, j'avais ce truc supplémentaire, tu vois, qui est en fait j'aime cette femme plus profondément que tout, si tu veux, et donc je peux éventuellement me marcher dessus ou faire preuve peut-être d'empathie. Alors ça, j'imagine que t'en es pas dénué vis-à-vis de cette amie, mais comment tu l'analyses avec le recul, toi, de ton côté ?
Il y a eu plusieurs choses importantes dans la grossesse. D'abord, elle a fait une grossesse très facile. Pas eu de nausées, elle pouvait pas développer le « tout ça, c'est à cause de toi !» Ça, c'était cool. L'autre bonne idée qu'on a eue, ça a été de se faire suivre tous les deux par des psys, chacun le sien. Et donc, ça nous permettait de beaucoup parler de ce qu'on ressentait et justement d'éventuels manques affectifs à ce moment-là qui auraient été importants. Ça, on l'a fait dès qu'on a imaginé le projet, on s'est dit il nous faut de l'aide en fait. C'est tout sauf facile de réinventer un modèle social. Moi, j'avais un peu d'avance parce qu'en étant homosexuel, on est obligé déjà de se défaire des projections de nos parents. Donc, on ne va pas se marier. Enfin, maintenant, on peut se marier, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas la vie de tout le monde. Il va falloir gérer cette grande différence. Mais la maman ne l'avait pas. Et du coup, elle l'a dit comme ça d'ailleurs. Elle a dit lorsque j'ai annoncé ce projet à mon entourage, ça a été un coming out. Et il y a eu, évidemment, dans le lot des amis et des gens qui ont dit oh là là, mais t'es folle, enfin.
C'est sûr.
Voilà, t'es une belle femme, t'as une bonne situation, tu vas trouver quelqu'un avec lequel monter un modèle normal, en fait, classique. Et elle est extrêmement. Encore une fois, c'était vraiment la bonne personne. Elle a cette modernité, elle sait créer. Et procréer. Oh là là, le mec a le sens de la punchline et il s'envoie des fleurs. Donc deuxième chose, troisième chose, on a eu un bon conseil d'une amie qui a été de faire appel à une sage-femme qui faisait de l'aptonomie. Et ça a tout changé.
Ah, ok.
Clairement, parce que là où, du coup, je sais pas ce que c'est l'accompagnement classique, mais nous. La sage-femme Sarah avec laquelle on a travaillé, on s'est préparé à l'accouchement, elle a vraiment sur le coup d'abord intégré notre modèle et elle a l'aptonomie, ça fait qu'on se touche pour les premières fois. Moi j'osais pas trop, j'étais le père, toucher son ventre, on se fait des câlins, mais on se fait pas des câlins comme un couple qui va faire des câlins tous les jours.
C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a un vrai truc aussi de réappropriation en tant que papa du corps de...
Exactement.
Déjà, c'est très extérieur à toi, d'une manière générale. Donc en plus, si t'as pas cette possibilité, c'est une super idée.
Ouais, et elle nous a beaucoup aidé. Du coup, on a mis en place plein de petits rituels. On écoutait une chanson, une musique, pardon, un morceau de piano de Schumann pour le bébé. Et puis, l'aptonomie démontre la relation qui existe déjà entre l'enfant et nous. Avec, on touche, il vient, il est toujours de notre côté, le bébé suit son papa. Donc, assez vite, moi j'ai pu lui parler, au début dans ma tête, parce que c'était trop... j'étais timide, j'étais gêné à l'idée de m'adresser à mon enfant. J'en avais hyper envie, mais il y avait les oreilles de la maman qui entendaient. Et c'était compliqué pour moi.
Okay.
Et puis... Je crois que c'est après l'écho des 5 mois où je me suis dit « Ok, c'est possible, j'en ai trop envie en fait. » Et j'ai pu, pour la première fois, vraiment verbaliser devant elle. C'était une première étape. Et,
qu'est-ce qui t'empêchait de...
Je sais pas, c'est vraiment un truc de pudeur. Pudeur et aussi peur de dire une bêtise. C'est pas si simple, encore une fois, la maman elle est hyper brillante et moi j'étais un peu en complexe d'infériorité.
Ah, t'as toujours ce truc là 20 piges plus tard?
Ouais, je l'ai toujours un peu.
Ok.
J'ai toujours un peu. Et du coup, peur d'être mal jugé, pourquoi tu lui dis ça?
Ok.
Donc je pense qu'il y avait de ça. Okay. Et puis aussi, c'est un peu conceptuel quand même de dire à un ventre, même si on sait qu'il y a notre bébé à l'intérieur, qui en fait est à l'état quand même encore un peu fœtus, enfin il est pas très très développé, on sait même pas s'il a des oreilles, enfin bon, c'est un peu conceptuel.
Je comprends.
Mais une fois que ça s'est mis en place, ça a été fluide, ça a été important pour moi, et l'autre moment important, vous allez encore me perdre, mais bon, c'est mon premier je t'aime, ça c'était vraiment, voilà.
Le fait
De lui verbaliser le premier je t'aime. On est d'une génération, toi et moi, on disait les enfants, ça pleure, il faut les laisser, il faut qu'ils soient autonomes, il faut, et donc du coup beaucoup d'enfants de notre génération ont manqué de ça, ouais. ont manqué de câlins, ont manqué de bisous, ont manqué d'amour. Et du coup, moi, c'est le grand sujet avec mon fils. Je veux qu'il soit sous d'amour. Ivre d'amour.
Ok.
Et je m'y emploie.
T'as l'air, en tout cas.
Je pense que je lui fais 96 bisous par jour et que je lui dis je t'aime au moins 3 fois par jour.
Tu sais, il viendra te voir en disant « Pourquoi tu m'en as fait que 96 et pas 100 ?»
Ou alors il
J'adore
dira
les chiffres
tu
ronds.
Me saoules, papa, oui. Si je t'aime, c'est bon, t'inquiète. Je sais que tu m'aimes. Oui, mais...
Moi, j'en ai pas eu assez, tu comprends. Ça va.
Oui, bah, soigne-toi, papa. Il va me dire ça. Je suis ton fils, pas ton petit.
Très Donc... bonne remarque. T'es prêt, t'es bon. T'es mûr. Bon, très bien. Quid de l'accouchement, hein?
Ah là là.
Parce que ça doit être quelque chose, ça aussi, en termes d'intimité. On parlait de ça, justement.
Ouais. Moi, j'ai flippé de l'accouchement toute la fin de la grossesse, on va dire à partir du 6e mois. J'ai vraiment flippé de ça. Je regardais les émissions, je regarde jamais la télé, hein, mais là, j'ai regardé les émissions bas de gamme. Hein, j'ai regardé Baby Boom, j'ai regardé ça, en fait. Hein. Et
c'est un peu anxiogène, ces émissions-là, j'ai jamais regardé. J'avais pas la sensation de l'extérieur, mais...
C'est très compliqué parce que les papas qu'on montre, pour la plupart, sont pas du tout celui que je voulais être.
Ah.
Et...
Bah déjà, j'ai fait ton cas, désolé, mais il y en a pas...
Oui, mais même en tant que... Parce que notre spécificité, maintenant qu'il y a le bébé... on est un couple okay. pour un enfant, je pense,
ça tout assez normal. J'entends bien, mais en fait... Comment tu te projetais en tant que papa par rapport à ces gars qu'on voyait dans Baby Boom?
Hyper investi, papa à 50%, quoi. Papa, ouais. Papa, j'ai 40 ans et j'arrête tout pour toi, en fait. Ouais. T'es le projet de ma vie, en fait.
Ouais.
Et avec ce truc génial d'avoir un bébé à 40 ans, qui est que ma carrière, elle est dernière moi. J'ai coché les cases que je voulais. J'ai réussi là où je voulais réussir. Donc, il n'y a pas cette pression-là. Et donc, du coup... depuis qu'il est là, je m'occupe. Il est pas gardé pour l'instant notre bébé. On s'en occupe tous les deux. Donc je passe toutes mes matinées avec lui.
Ok.
Voilà. Je lui ai vraiment dégagé du temps.
Et pourquoi tu flippais de l'accouchement alors?
L'urgence médicale. Ouais, il va se passer un truc. Moi j'étais un enfant un peu malade, donc j'ai un rapport à l'hôpital qui était pas très facile. Et
beaucoup de papas, hein, si ça peut te rassurer dans l'histoire de Daron. Hein. Problème avec les hôpitaux d'une manière générale.
Ah ouais, je faisais des rêves horribles. Elle perdait les os dans la rue, il fallait que je la porte, il n'y avait pas de voiture. C'était très compliqué.
Okay.
Et du coup, l'accouchement, l'arrivée de mon fils a été beaucoup moins stressant que la réalité. Parce qu'en fait, je peux vous le dire, futur papa ou papa. En fait, c'est pas une urgence. C'est souvent pas une urgence. Il arrive que ce soit une urgence, mais c'est souvent pas une urgence. C'est cool. Nous, elle a perdu les os à 17h. Je ne vais pas dans le bon ordre. Elle a commencé à avoir des contractions, pardon. En tout début de nuit, elle est venue me chercher à 7h du mat, parce qu'elles n'étaient pas très fortes, les contractions. Mmh. On a attendu encore toute la journée. Elle a perdu les os à 17 et à 19, on est arrivé à la mater. Donc, on a le temps. Et elle accouche le lendemain à 14h. Vraiment, on a le temps. Ce qui est compliqué, c'est que on sait pas trop comment se positionner. C'est difficile de voir l'autre souffrir. Mmh. Et ça a l'air d'être de la grande douleur. Dans les petites anecdotes amusantes de la mater, on a eu la sage-femme à qui je vais demander comment on sait que c'est le moment de la péridurale. Et elle me dit, vous saurez.
Oui.
Et donc arrivent les contractions qu'on pensait être les contractions, les vraies contractions. Et puis donc ça dure une heure, deux heures. Une dame vient faire un premier test, comment ils disent, un premier examen. Et elle dit, ah ben non, mais vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas commencé le travail du tout. Et là on se dit, ah merde. Donc ça, ce qu'elle vient de douiller là, c'est rien en fait. Et effectivement, au moment où la dame, c'est intéressant, hein, le comment ça se passe, hein, les énergies, les machins, je suis pas trop là-dedans, mais là quand même, elle ferme la porte. La seconde qui suit, la maman fait et arrive la première vraie contraction. Et là, nous, on est mal parce que on peut vraiment pas faire grand-chose. Sinon, moi, je lui massais le bas du dos, ça l'aidait beaucoup. Enfin, ça l'aidait en tout cas. Et puis effectivement, il y a un moment où elle fait « Madame !» Et on sait qu'il faut aller chercher l'infirmière. Et... voilà, et ça aussi c'est assez rigolo parce qu'on parle, on parle d'une maman qui est dans un état hyper impressionnant et elle part pour sa péridurale et quand on revient et qu'on la retrouve, elle est shootée. Elle est... Donc elle parle de j'ai très mal et on arrive à non mais là tout va bien. En fait elle a dormi. Elle a dormi avec bébé qui est en train d'être expulsé progressivement quoi. C'est ouf.
C'est faux. On lui a planté une énorme aiguille dans le dos.
Oui tu as raison. Tu as raison.
Excuse-moi je me.
Non, tu fais bien, tu fais bien.
Je sens qu'il y a des sinon il y a des darons qui vont nous envoyer des messages.
Ah oui tu as raison.
En disant eh oh, oh, oh. Énorme aiguille.
Qu'on
veut pas avoir. Même.
Non, on n'a pas le droit d'ailleurs.
Non.
Moi,
je veux pas. Enfin, j'ai pas. Sortir. Ça m'intéresse pas.
Et donc voilà. Et puis ensuite, donc effectivement, elle a dormi pendant le travail.
C'est vraiment dormi.
Ouais, ouais. Okay. Elle a pris des forces quoi. Et puis ils sont venus à 14h nous dire qu'il fallait que ce soit maintenant parce que d'abord le col était suffisamment ouvert et parce que le cœur de bébé commençait un peu à fatiguer ouais. De ce long travail. J'ai pas précisé, le très important c'est que cet enfant est sorti par voie basse mais par le siège. Donc c'est un accouchement un peu spécial qui se passe au bloc. Il y a peu d'hôpitaux qui acceptent la voie basse pour le siège et nous on avait la chance d'être pris en charge à la Riboisière et équipe de ouf, vive l'hôpital public, je vous en supplie, État français, donnez-leur de l'argent. Extraordinaire l'accompagnement, la qualité des gens dans l'hôpital public, c'était dinguissime. Et tout le monde, tous les interlocuteurs qu'on a eus, vraiment très très haut de gamme. Et donc là, c'est pour moi, c'est le climax au moment où elle va au bloc. Moi, je suis dans la pièce avant, je suis habillé en...
Charlotte et tout.
Ouais, et là, il faut que je me gère émotionnellement, il faut vraiment que je me gère. Parce que je sais pas ce que j'ai, c'est un état, c'est vraiment été là mon climax. Je dis, oh là là, je sais pas, c'est un malaise, j'ai l'impression de, ça débordait de partout, comme si j'avais bu 15 litres d'eau et que vous allez exploser. Et en revanche, le moment de l'accouchement, quand on me fait rentrer dans le bloc, là, je change de mode. On est tous en mode, maintenant.
Mission.
Mission. Je sais pas si plein de papas disent ça, mais c'est pas un moment émouvant. C'est un moment où on est concentré. Il faut sortir le bébé, accompagner la maman comme on peut. Bon, il y a une armée de gens, le siège c'est rare, du coup il y a même des internes qui viennent voir comment ça se passe et tout. Et donc c'est pas un moment émouvant, c'est un moment concentré. C'est d'une beauté totale, une sortie par le siège parce qu'il touche pas à l'enfant pour pas déclencher le réflexe de Moreau qui ouvrirait les bras et ferait qu'il serait coincé. Donc il le touche pas. Donc on voit le bébé sortir, c'est sublime, une corée quoi. Et
ouais,
c'est magnifique quoi.
Une corée.
Et puis il sort et puis coupage de cordon et ensuite il respirait pas très vaillamment donc ils l'ont emmené et là c'est génial. On suit sans de manière aimantée en fait. On réfléchit pas. À, tiens qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec le... Non. Il t'emmène votre enfant. Vous le suivez en fait. Et il a vite après respiré tout ça et voilà. Et le gros climax émotionnel, donc il y a eu celui juste avant et la vidange pour moi elle est le lendemain en fait.
Ok.
Ou le lendemain où là il y a beaucoup de larmes, il y a de la tristesse, des sanglots et tout. Oui, il y avait de la tristesse. Il y avait de la tristesse parce que j'ai fait immédiatement le deuil de papa à 50-50. Non. Quand bébé arrive, il est scotché à sa mère. Et nous les papas, ça va être un chemin. Mais il n'y a pas de... moi, j'y croyais. Quand il est sorti, il allait faire « Papa, je te reconnais. Je te reconnais, je t'aime. » Et non. Le début, mon cousin m'a dit « Ne rentre pas dans le game avec la mère. Hein, t'as perdu. » Et moi, il a fallu que je fasse l'apprentissage de ça. Parce que la première nuit, j'ai voulu être too much. Et du coup, le bébé vous dit « Non, hein, ça va pas se passer comme tu veux. Hein, je t'arrête tout de suite. » Donc, ça a été douloureux pour moi.
Ah, je comprends. Je pense que c'est la première fois qu'un daron... Tu vois, on est presque à 60 épisodes. Hein. Je pense que c'est la première fois qu'un daron me le verbalise aussi clairement. Alors que je suis 1000% d'accord avec toi.
Ouais. Hein,
tu vois.
Tu veux dire à quel point...
À quel point, toi, en tant que père, ta place à trouver, comme tu dis, c'est un combat, c'est un chemin, c'est un vrai truc dans lequel il faut que tu prennes ta place petit à petit. Mmh, mmh. Et je pense que, alors c'est pas pour excuser tous les darons qui se cassent, etc., etc., parce qu'en fait c'est un chemin et qu'ils ont décidé de pas participer à ce combat-là. Mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a un vrai problème avec les pères, alors naguère, hein, tu vois déjà, mais encore aujourd'hui, c'est que on leur dit pas au père que ça va être une vraie bagarre, une bagarre positive, hein, tu vois, une bagarre où il faut trouver ta place. Pour moi, c'est un vrai truc de, bah, t'as perdu, t'as perdu de base. Et en fait, il va falloir que tu gagnes petit à petit des parts de marché.
Exactement. On est à côté de la maman, on l'accompagne. L'allaitement également fait qu'on est accompagnant. Il y a une fonction hyper importante qu'on remplit pas.
T'es très vite, tu peux, je pense, très vite sortir de ce truc-là si tu le regardes à côté et que tu laisses le train passer et que tu fais, quand tu veux le rattraper parfois.
Ouais, ouais. Il faut rentrer dans le
trop
game.
Trop tard.
Et avec douceur pour le bébé, pour la maman et tout. Et voilà, on se met sur des petites missions au début. On essaie de rendre la vie de maman et de bébé la plus douce possible.
Comment t'as fait ?
Je me suis mis sur des micro-missions, les couches. C'est moi qui changeais cet enfant. Il y a eu besoin au tout début de petits compléments au lait maternel. Donc ça, c'était des moments hyper, hyper touchants pour moi de faire ça.
Donc donner des biberons, tu veux
ouais.
dire ?
Ouais. Je les ai pas quittés. Donc je suis resté. J'ai dormi à la maternité sur un matelas par terre. Et j'étais le seul papa dans toute la matière de la Riboisière à faire ça. Il y a beaucoup de femmes qui mettent leurs enfants au monde seules. Hein, ça fait flippant. Hein.
Ah ouais.
Oh là là, ça m'a vraiment frappé. Hein. Après, des familles de 4 enfants, papa, il reste à la maison gérant les 3 autres. Hein, c'est aussi normal. Mais ouais, ça m'avait vraiment marqué. Et puis surtout, j'étais sur tout, un maximum de sujets, quoi. Mais voilà, grande leçon au tout début, c'est pas papa je t'aime quand on arrive, en fait. C'est une relation à créer et il y a vraiment une place à prendre. C'est pas violent, hein, comme tu disais, ça se fait poco à poco. Ouais. La vraie place, en fait, je l'ai trouvée après, quand la maman, elle a un peu lâché. La place, aujourd'hui, on a...
Donc là, votre fils, il a 6 mois.
Il a 6 mois, ouais. Aujourd'hui, la relation, elle est ouf avec mon fils parce que la maman a un peu repris le boulot. Maintenant, il est sevré. Et puis, les échanges, une relation normale, quoi. Encore une dame dans un dîner qui m'a dit l'autre jour, moi j'aime pas trop les tout bébés parce qu'il n'y a pas de communication. Je fais, ok, bah, t'en as pas. Hein. Je communique beaucoup avec mon fils, hein. Dans les deux sens. Hein. Il m'apprend des choses. Donc c'est drôle, cette phrase.
Qu'est-ce que t'apprends de ton fils ?
J'ai eu vraiment des grands stades. Cet enfant, il m'a complètement fait évoluer. Du fait qu'ils n'aient pas la parole, les enfants ont une espèce de clairvoyance émotionnelle hyper importante. Et moi, de par mon travail et aussi de mon éducation, j'ai tendance à rechercher la paix sociale en permanence. Et donc, si on arrive dans une pièce où il y a beaucoup d'excitation, d'énervement, je suis le genre de mec qui arrive en disant « Bon, alors, allez, on se met bien, on se prend un petit café, on se détend, cool hein. !»
On s'assort en tailleur.
Exactement, on s'assort en tailleur, on va enlever nos grolles et on se fait une sieste. Et je l'ai voulu le faire un jour avec mon fils. J'étais stressé, je ne me rappelle plus par quoi, mais j'étais vraiment stressé. Et un matin, j'arrive, je fais « Alors, mon amour !» Et j'y vais de plein de gnagna, de chouchou, de vous. Et là, il hurle. Donc moi, un peu vexé, j'essaie de le garder, de le calmer et tout. Il hurle, alors c'était le matin, il hurle d'habitude, tout va bien, enfin... Bon, je le donne à sa mère et il arrête immédiatement de pleurer. Bon, vexation. Chance pour moi, je voyais ma psy l'après-midi et donc je raconte cet épisode et elle me dit « Mais Pierre, vous êtes arrivé ici en me disant que c'était compliqué en ce moment, que vous étiez stressé. » Bien évidemment, votre fils, vous arrivez en lui disant « C'est Mickey, viens, on va s'amuser, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli. » Il vous dit « Non, non, papa. » Tu m'intéresses pas du tout, tu me mens en fait. Tu es stressé et tu es triste en ce moment. Et c'est génial.
Elle est cool ta psy. Hein. Elle est
fabuleuse.
Bon kick dans ta gueule.
Elle est vraiment fabuleuse. Je suis rentré, c'était l'heure du goûter, j'ai donné le biberon et j'ai pleuré une demi-heure en donnant le biberon. Et le bébé était tout à fait OK avec ça. Donc il m'a vraiment ce jour-là dit « Avec moi, papa, me la fais pas à l'envers, en fait. T'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être stressé, t'as le droit de pas être bien, mais t'as pas le droit de me mentir, en fait. »
Et bonne leçon de vie.
Une grande leçon. L'autre grande leçon qu'il m'a donnée, mais c'est ouf. C'est ouf à quel point on peut se modifier, en fait, psychologiquement. Notre bébé, il est extraordinaire. Vraiment, on a beaucoup de chance. Il dort bien, il mange bien, il se développe parfaitement. On lui fait un vaccin, il fait 38 de fièvre. Formalité. Donc vraiment, vraiment beaucoup de chance. Et à la fois, on a organisé un cocoon hyper... cotonneux, câlin. On gère son confort. Et du coup, il nous le rend bien. Je pense que ça joue vraiment. Parce que d'autres copains qui ont des enfants, des fois, il y a des témoignages en disant « C'est marrant, il s'habitue pas, il a du mal à se régler. Là, on était à tel endroit, là, puis on était à Tel Aviv le mois d'après, puis on est allé en Chine, et puis il a du mal avec le décalage horaire. Il a 4 mois. » C'est génial de dire ça d'un enfant quand en fait, les adultes font nimp et qu'ils s'adaptent pas. Oui, calmez-vous un peu aussi. Bref. Donc beaucoup de chance avec ça, mais après il a eu quand même des maux qu'ont beaucoup d'enfants, notamment des maux de ventre difficiles, et donc il y a eu beaucoup de pleurs, etc. Quand il avait des crises comme celle-ci, et il y a un sujet un peu sur l'endormissement, qui va de mieux en mieux, il va bientôt plus être d'actualité, mais ça a été parfois compliqué, voire très très compliqué de l'endormir, et moi ça me rendait fou, quoi. Vraiment, les nerfs me mettaient dans des états de nervosité. Ah, parce que c'est très difficile, un enfant qui pleure. Et alors, votre enfant qui pleure, c'est comme si les pleurs, ils étaient fabriqués pour... C'est pas que nos oreilles, ça va nous chercher au fin fond de l'estomac et du plexus. Il prend nos tripes, il... C'est impressionnant à quel point ça nous... J'en parle pareil, toujours à ma psy, je comprends pas que ça me mette dans de tels états, les pleurs du bébé, c'est horrible. J'ai eu deux gestes de nervosité où vraiment, genre, je vais dans ma chambre, je le pose, mais trop fort. Je le pose pas avec soin, comme j'ai dit, je le pose, vraiment, je m'en débarrasse, en fait. Je ferme la porte, je fais... Et ça, on n'est pas fiers de ça. Mais c'est un peu malgré nous, c'est-à-dire qu'il nous pousse. Et donc, j'en parle à ma psy, et elle me dit, je raconte beaucoup ma life, enfin on est un peu là pour ça.
Oui. Elle c'est me étrange dit, comme remarque.
Ouais, non, mais je réalise, non, parce que ça devient un peu vraiment intime par rapport à mon histoire, mais j'ai un papa qui s'est pas beaucoup intéressé et occupé de moi, et du coup ma psy me fait dire, mais qu'est-ce qu'il vous dit cet enfant quand il pleure comme ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors moi, imbécile, je sais pas, il me dit aide-moi à dormir papa, il me dit oui bien sûr, mais donc qu'est-ce qu'il vous demande? Et là je fais, je sais pas, il me demande de s'intéresser à lui, de s'occuper de lui, et là elle me dit ah. Et alors cette demande, elle vous parle, Pierre? Ça vous parle, ça? Papa, occupe-toi de moi. Je fonds en larmes parce que je connecte.
Très bon bouton.
Je connecte, je fais « Oh putain, mais bien sûr. » Et je te jure, Fabrice, du jour au lendemain, ça m'a reprogrammé. Et quand bébé, il pleurait, que c'était difficile, lui, il a continué à pleurer, hein. Mais moi,
tu le prenais plus de la même
j'étais
façon.
J'étais en paix, mais j'étais vraiment. Et du coup, je restais hyper calme. Je disais, je sais, chérie, t'as sans doute plein de bonnes raisons d'avoir du mal à t'endormir. T'inquiète, papa, il a toute sa nuit, s'il faut pour toi. Il était dans ses bras, et t'inquiète pas. Et c'est devenu hyper facile de le gérer. Et du coup, moi, j'ai réussi vraiment à me dire, ok, donne-lui vraiment du temps. Parce qu'au début, il y a une frustration. Bébé prend plein de temps. Et quand on a un taf et qu'on aime son taf, on se dit, mais c'est à cause de toi si je peux pas faire ça. Et de ce jour-là, vraiment, c'est devenu facile de lui faire vraiment de la place et de dire aux gens avec qui je travaille, je peux pas. Ou dans 2 mois, ou plus tard, ou sans du tout lui en vouloir. Donc c'est les deux beaux apprentissages que j'ai fait avec lui.
Merci pour ça. Je pense que ça va parler à plein de darons et de darons.
J'espère, ça m'émeut de raconter ça.
Comment ça se passe avec la maman?
Alors, oh, hyper bonne question. Je t'ai dit, je suis d'une famille où il a fallu un peu prendre sur soi pour exister. J'ai un grand frère qui prend beaucoup de place, voilà. Et donc j'ai beaucoup pris sur moi. Et du coup, ma spontanéité va vers être au bon endroit, l'élève modèle, voilà. Et j'ai fait pareil avec la maman. Donc toute la grossesse, j'ai voulu être le gendre idéal, ça va, je te fais tes lacets, tu veux un massage de pied, tu me demandes, hein, y a pas de problème. Donc j'étais excessif dans ce sens-là, et quand bébé est arrivé, j'ai voulu être aussi père idéal. Une fois que j'ai compris que mon rôle était dans un premier temps d'être le meilleur accompagnant possible, j'ai essayé d'être vraiment le meilleur qui existe. Et que je te fais les machines, et que je gère toute la bouffe. Qu'est-ce que tu veux? Là, une bière sans alcool, t'inquiète, je vais en acheter. J'ai vraiment été à m'en nier complètement. Et donc, du coup, j'ai pris sur moi. Et quand on fait ça, c'est pas bien, parce qu'on remplit un pot qui, à un moment, pète. Et il a pété. Et donc, il y a eu une très grosse crise avec la maman, au bout de 3 semaines, et où j'ai d'un seul coup tout rejeté. J'ai vraiment disparu. Je me dis, ok, tu es néfaste pour moi, donc je te mets le plus loin possible. Et elle a absolument rien compris, évidemment. S'est retrouvée, elle avait le super papa sur le coup, surtout. Puis après, elle passait à l'extrême inverse. Donc elle s'est hyper inquiétée, elle a eu très peur de ce qui pouvait arriver. Elle fait, ok, on va se séparer. Et puis, comme la plupart des grandes crises, ça a été salutaire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a pu réinstaller un truc... moi, j'ai pu y voir un peu plus clair et réinstaller un truc beaucoup plus sain pour moi et beaucoup plus vrai. Moins prendre toutes les injonctions au pied de la lettre. Parce que elle a une intuition, la maman, au début, qu'on n'a pas, quoi. Et puis, maintenant, j'ai appris. Et aujourd'hui... on peut ne pas être d'accord. On me dit, ah, il est fatigué. Je fais, non, je pense pas. Je pense que là, il a faim. Et c'était pas le cas avant. Et donc, aujourd'hui, et je suis ému de le dire, c'est vraiment le super bonheur, quoi. Après, on a bossé cette relation. Parce que suite à ça, on a vu un autre psy. un psy de couple.
En couple, entre guillemets.
Ouais. Qu'on a vu juste 3-4 fois, mais ça a été l'occasion de pouvoir bien réapprendre à se parler, etc. Et vraiment, aujourd'hui, je suis heureux avec elle. Et on a fait une charte qui n'a pas de valeur juridique, mais au moins, on a réfléchi, à l'époque, on a réfléchi au nom de l'enfant, aux problématiques religieuses, parce qu'on n'est pas du même... elle a une religion et pas moi. Et donc, il y avait des questions à se poser là-dessus. Et aussi sur comment est-ce qu'on vit à deux. Et on a laissé plein de portes ouvertes parce qu'on ne savait pas, on voulait faire l'expérience. Mais on s'est quand même dit que l'appartement qu'on avait acheté, dans lequel on allait vivre là, on y allait rester au moins 3 ans, jusqu'à l'entrée en mater en fait. Puis dans notre charte, on peut du coup séparer, si on a envie, nos deux appartements à partir de l'entrée en mater. Et on a mis des jalons comme ça jusqu'à la majorité du bébé, pour qu'on reste proche.
Vous avez mis tout ça dans un cadre, en fait. Ok, d'accord.
Bah, on avait anticipé, et comme je te le disais avant qu'on commence l'entretien, on a eu une grande conversation sur circoncision, et ça me faisait marrer d'écouter le podcast où t'en parles, et ça nous a beaucoup... c'était très pertinent ce que disait son prénom.
C'était Sébastien Marx.
Exactement.
C'est ça. Je mettrai un petit lien dans les notes si vous voulez.
Ah, il est cool ce podcast, je vous encourage à l'écouter, vraiment.
Donc, et aujourd'hui, votre bébé a 6 mois.
Exactement.
Ça se passe bien.
Ça se passe hyper bien. On est dans la période compliquée pour les Parisiens. Je crois que c'est hélas un truc de Parisien, ça, de trouver un mode de garde parce que la crèche n'a pas pu le prendre. Et moi, je suis dans un paradoxe émotionnel avec il faut que je retravaille, vraiment, parce que je gagne plus assez d'argent. Et aussi que j'en ressens un peu le besoin. J'ai peur de passer à côté de... Oh là là, ça aussi, ça va m'émouvoir. Ce qu'on vit est tellement tellement beau, tellement fort, tellement, c'est tellement incroyable que j'ai peur de passer à côté de la relation, là, ce qu'on construit. Et je me dis, putain, si demain, là, je passe toutes mes matinées avec lui, tous mes week-ends, plein de soirées et tout, si demain, 5 jours sur 7, c'est énorme. Je vois que le matin et le soir, je me dis, oh là là, ça va être difficile. Mais bon, on va y arriver. Tout le monde y arrive.
T'es intense, Pierre.
De quoi?
T'es tellement intense.
Je suis intense sur ce sujet-là. C'est trop. C'est au-dessus de ce que j'imaginais, vraiment. L'amour qu'on ressent pour son enfant est indescriptible. Je le savais, hein. C'est la raison pour laquelle je voulais un enfant. C'était pas j'ai peur de vieillir seul. Non, c'était je veux faire l'expérience de l'amour ultime. J'ai été amoureux d'une femme, de deux hommes, j'ai vécu l'amour entre adultes. Celui-ci, il est vraiment indescriptible, il est plus que viscéral. On est presque une seule personne, c'est vraiment bizarre, quoi.
Et tu crois pas aussi que c'est important de réussir à faire en sorte que ton enfant, à un moment donné, réussisse à exister en tant que personne, en tant que tel ?
J'en suis sûr, mais il a 6 mois, Fabrice. Il a 6 mois. Il y a 6 mois, il a encore pour l'instant une vie in utero plus longue que celle.
Oui, c'est vrai.
Et donc, oui, je vais faire, j'en suis, c'est dans mes convictions. On va en faire un être autonome. Ouais. Et bien sûr qu'on va le laisser et lui donner la confiance en lui maximum pour qu'il puisse s'épanouir et s'éclater. Mais là, il a 6 mois. Donc là, je suis collé à lui. Sa maman est collée à lui. Et oui, on chiale quand on le quitte 3 heures. On est une famille de pleureurs, tu l'auras compris.
Moi, je ne juge pas, tu sais. C'est très, très bien. J'ai une question que je pose à tous les invités. Imagine ton fiston, il a 11 ans, il écoute ce podcast, qu'il a retrouvé sur Internet quelque part. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ?
Tu vas réussir un peu. J'espère que quand il aura 11 ans, je continuerai à lui dire ce que je lui dis tous les jours. Et tous les jours, je lui dis, je suis fier de toi et je t'aime à chaque seconde.
Pourquoi c'est si dur que ça à dire?
Parce que ça m'émeut, parce que parce que c'est mon histoire. Et aussi parce que c'est vrai, en fait. C'est impressionnant à quel point c'est vrai, à quel point je suis admiratif. Il grandit d'un centimètre par semaine. Un centimètre, il fabrique suffisamment de cellules pour grandir d'un centimètre par semaine. Il apprend des trucs à une vitesse vertigineuse. Il est vraiment incroyable. Et l'amour que j'ai pour lui, il est vraiment... Il est vraiment complet. Je sais pas comment le. C'est pas un lien en fait. C'est tout un tas de fils qui nous relient. On est. C'est vraiment. C'est total. C'est complet. C'est partout. Pardon, je me renifle parce que du coup je pleure un petit peu.
Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, que j'aurais dû te poser? Est-ce qu'il y a des trucs que tu souhaites rajouter ?
On n'a pas parlé du tout du fait que je sois homosexuel. Est-ce que ça crée des peurs ou des pour l'avenir de ce bébé ? C'est pas tant vis-à-vis de moi. Parce que moi, c'est vraiment des questions que je me suis posées.
Ouais.
De... Ok, j'ai un enfant qui a un papa homosexuel. Donc quand les copains vont venir à la maison, ils vont dire « Mais attends, elle est bizarre votre maison, il y a 2 cuisines ?» Il y a 2. Et je me suis. je me suis vraiment rassuré en me disant que c'était d'abord mon histoire à moi. Et je me suis rassuré aussi en regardant les enfants, en fait. Les enfants sont OK avec... j'ai la chance d'avoir des copains homo qui ont des enfants, qui se sont mariés. J'ai assisté à une scène rigolote. On regardait la vidéo de leur mariage. Et il y avait plein d'enfants qui regardaient. Donc ces deux hommes échangeaient leurs vœux, s'embrassaient, etc. Et les gamins, il y a ceux qui regardaient avec une larme en disant « Oh, c'est trop beau !» et d'autres qu'on avait absolument rien à faire. Et dans les deux cas, m'allait bien, en fait. Donc, j'ai pas de...
Tu veux dire qu'il n'y en avait aucun qui disait « Un papa, une maman !»
Ouais. Exactement.
Très bizarrement, c'est plutôt un truc d'adulte.
Ouais, c'est ça. Et eux, ça les intéresse pas du tout. Et puis, j'ai eu confiance en nous. Avec sa maman, on saura lui expliquer... son histoire, donc j'ai pas de souci avec ça. Il y a eu, je me suis vraiment posé la question, tu sais que hélas beaucoup de gens font des liens complètement ubuesques entre homosexualité et pédophilie.
Mais c'est j'ai l'impression que c'est des vieilles...
J'espère.
C'est des vieux clichés, ça ouais, existe toujours, ça.
J'espère, mais en tout cas, moi, c'est passé dans ma tête. Et ouais. J'ai vraiment, au début, espéré avoir une fille pour ne pas être confronté à, à ces soupçons-là, à cette problématique-là. Donc, c'est vraiment un truc qui... Ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, OK, si j'ai une fille, en fait, c'est plus simple.
Ah, oui, OK.
Et ça aussi, en fait... C'est passé. J'ai arrêté de m'inquiéter de ce truc-là. Et maintenant que c'était avant que bébé soit là, et maintenant qu'il est là, cette question est totalement un non-lieu. Enfin, je la comprends pas très bien pourquoi je me la suis posée, mais
bah c'est des trucs qu'on fout dans le crâne.
Oui, c'est ça.
Qui date d'il y a fort longtemps, quoi.
Tu c'est vois, ça. Donc voilà, il y avait cette thématique de l'homosexualité. Une autre question qui est intéressante, je trouve, dans notre situation, c'est l'éventuelle arrivée d'un conjoint. Pour l'instant, on est célibataire tous les deux.
J'allais t'en parler. Ouais.
La maman, elle a eu un amoureux pendant la grossesse. Donc, moi, je me suis fait quand même un petit coup de flip. Pas pendant la grossesse, pendant qu'on était en train d'essayer. C'était avant, donc. Et bien évidemment, je me suis dit, OK, si ça marche entre eux, et je pourrais pas lui en vouloir.
Quelle est ma place ?
Et en fait, ça arrangeait tout le monde, notre situation, parce que le mec avait pas envie d'enfant, donc il a dit « mais ça me va très bien, fais un bébé avec Pierre, et puis nous on continue notre life ». Et elle aussi, elle m'a dit « non mais lui il remet pas en cause nous ». Et moi, je sais pas en fait, je me rends pas compte dans la planète, j'ai l'impression que chez les homos, il y a ceux qui adorent les enfants et ceux pour qui c'est pas le truc, comme chez tout le monde, et que... Bah, si moi j'ai un amoureux dans les mois, les années qui viennent, il faudra qu'il adopte. Pas au sens légal du terme, mais il faudra qu'il adopte mon bébé.
Maintenant qu'il est là, on va dire que ça pose moins de questions, je pense, parce qu'il existe maintenant, il fait partie du package, que ce soit de son côté ou du tien, quoi.
Exactement. Et puis, on va pas se mentir, enfin, t'es papa, il n'y a pas de temps. Quand t'as un bébé de 6 mois, il n'y a pas de temps. Il n'y a même pas le temps de s'envoyer en l'air. Donc évidemment, il n'y a pas le temps d'aller au restaurant, de faire un date, salut. Donc non, tu fais quoi ce soir? Je me couche. Parce que demain, à 7h, on est reparti.
Nous, on s'était instauré des moments de sieste crapuleuse pendant les siestes de nos enfants, tu sais. Mais c'est 80% du temps, c'était niqué parce que
mais bien sûr.
L'enfant, il se réveille en plein milieu. Il était là, merde ouais. Allez, c'est dead.
J'imagine très bien.
Et même, alors que tu vois, on est en couple et qu'on a vraiment une capacité c'est à ça. Prendre rendez-vous.
C'est ça. Moi, ça je peux pas programmer le sexe comme ça.
Alors, j'imagine même pas. Si tu te dis, OK, faut dater, là, c'est encore un autre délire.
Fais l'amour à 14h22, si tu veux. Non, mais attends, ça coûte toujours. Donc non, c'est pas vraiment un sujet. C'est marrant, plusieurs personnes m'ont dit, on verra, mais là, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, je me sens tellement, je reçois tellement d'amour de la maman de mon fils que
j'ai l'impression qu'émotionnellement ça va.
Ouais, je me ressens pas, voilà, je me sens pas en manque d'amour du tout, quoi, clairement.
Merci beaucoup, Pierre.
Mais attends, c'est moi qui t'en
remercie. C'était super.
Oui, c'était pas trop larmoyant, je suis désolé.
Bah, arrête d'excuser parce que tu pleures, hein.
Ah là 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 là. Ouais, en tout cas, merci à toi parce que ce podcast, il est je sais pas comment te dire, du fait que ce soit si accessible, on a l'impression qu'on a une oreille, on est à une table de café, il y a deux mecs qui parlent à côté et on écoute et on prend les infos qui nous... Et ça, c'est très agréable en fait. On le met, t'es en train de faire la vaisselle ou machin, tu le mets chez toi et je trouve ça hyper cool. Donc c'est pour ça que j'étais hyper content qu'on se rencontre et je suis heureux d'avoir pu apporter ce témoignage.
Bah, j'espère que ça parlera à plein de gens. Je pense que ça parlera à plein de gens. Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie. Ciao.
Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, FabFlorent, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron. Vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.